Je vais vous présenter le résultat des travaux que nous avons menés à la CNUSED sur ces traités d'intégration soi-disant régionale, dont la pratique très souvent c'est entre des pays de deux régions tout à fait différentes, mais c'est comme ça qu'ils sont considérés à l'OMC. C'est un rapport qui a été publié en 2007. Je vais vous présenter quand même des chiffres actualisés. De quoi est-ce qu'il s'agit? D'abord, il s'agit de traités qui, essentiellement, sont des traités bilatéraux, non, que vous avez ici en bleu ou vert, qui se sont signés de façon assez accélérée à partir des années 90. Ceci a changé considérablement le commerce mondial, mais aussi, comme nous allons voir, ça a changé les politiques à l'intérieur des différents pays. Déjà, vous voyez une croissance jusqu'à plus de 200 traités essentiellement bilatéraux. Ce sont aussi des traités de libre-échange. C'est là où les économies membres de ces accords éliminent les barrières douanières et non tarifaires dans le commerce entre elles sans aller au-delà, c'est-à-dire sans créer par exemple une unité douanière ou un marché commun. Et ce qui est aussi nouveau et que vous voyez ici en jaune, ce sont des traités qui concernent des... c'est pas en jaune, c'est en violet. Là, ce sont des traités entre des économies développées et en développement, qui étaient pratiquement inexistants avant. Non, dans les années 80, c'était soit des pays développés qui faisaient des traités entre eux, par exemple la communauté européenne, soit des économies en voie de développement qui aussi faisaient entre eux. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on commence à faire donc des traités entre des économies à des stades de développement différents. Il y a aussi, par exemple, des traités entre des économies en transition entre elles. Et ça, c'est parce que lorsque il y a la fin de l'Union soviétique ou la fin de la Yougoslavie, les États qui se créent font des accords de libre-échange entre eux. Donc ça existe, il y a une pluralité, mais ce qui nous a intéressé à nous essentiellement sont ces traités Nord-Sud. En gros, ce qui s'est posé là était comme un échange. D'un point de vue du pays en voie de développement, c'était « je vais accéder dans des conditions préférentielles au marché du pays développé ». Mais en échange, je vais abandonner certains instruments de politique économique. S'il se passe maintenant dans la négociation entre l'Europe et les pays d'Afrique et Caraïbes, Pacifique, non, l'ACP. Souvent, on est en train de changer un accord où on tenait en compte la différence de niveau de développement, et alors il y avait un traitement préférentiel pour le pays en voie de développement, et maintenant on le substitue par une symétrie, c'est-à-dire on ouvre des deux côtés. Mais en plus, pour signer ces accords, on demande essentiellement aux pays en voie de développement de garantir certaines privilèges, on pourrait dire, aux pays développés, en particulier à ces entreprises étrangères. Alors, c'est ce qui s'est passé en particulier pour l'ALENA. Non, c'est un des premiers grands traités, disons, nord-sud, et qui a en quelque sorte ouvert la voie à d'autres, à bien d'autres. Mais ce n'est pas le seul traité qu'a signé le Mexique. Le Mexique est un des pays qui a signé le plus de traités de libre-échange dans le monde. Il a 14 autres traités de libre-échange recensés à l'Organisation mondiale du commerce et deux ou trois encore en voie de négociation et ça couvre déjà 44 pays. De quoi il s'agit? Essentiellement de réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, mais avec certaines flexibilités. Par exemple, pour l'agriculture au Mexique, on a donné 15 ans de période transitoire où ils pouvaient maintenir certaines protections. Les 15 ans sont passés. Mais en plus, on introduit des règles. Non, déjà, accès au marché public. On ne peut pas utiliser le pouvoir d'achat de l'État pour favoriser des entreprises locales, hein, qui a été un instrument important pour développer la capacité productive des pays. Sur l'investissement, on doit donner à l'investissement étranger les mêmes conditions que pour les investisseurs locaux ou pour des investisseurs d'un tiers pays qui auraient des privilèges. Déjà, dans l'investissement, il y a tout. Il n'y a pas seulement l'investissement direct, disons, où on peut penser qu'il y a un certain investissement en termes réels, mais aussi pour les crédits. Pour tout genre de mouvements de capitaux, il y a comme une protection qu'on ne va pas leur demander de faire des choses s'ils n'ont pas envie de les faire. Par exemple, on ne peut pas dire à une entreprise étrangère « vous devez exporter X% de votre production ». On ne peut pas leur dire « vous devez transférer des technologies » ou « vous devez développer des fournisseurs locaux ». Tout ça, c'est interdit. Et par contre, cette entreprise ou ce capitaux étranger peuvent envoyer sans restriction des dividendes ou rapatriement de capitaux dans son pays d'origine. Il y a aussi une protection de la propriété intellectuelle qui va au-delà de ce qui existe déjà dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que il y a donc un renoncement à des instruments des politiques de développement qui ont été utilisés par tous les pays développés aujourd'hui à un certain moment de leur histoire. Non, c'est ce que on dit parfois, donc on monte l'échelle et puis on donne le coup de pied à l'échelle pour que les autres ne puissent pas faire comme vous. C'est ce qui se passe là. Alors bon, on peut dire, bon, mais il y a d'un côté, donc, ces coûts, d'un autre côté, il y a un accès au marché. Seulement, il faut que cet accès au marché puisse être profitable. Non ? De quoi me sert à moi de pouvoir accéder sans tarif douanier à un marché si je n'ai pas les capacités de production pour le faire ? Ou si on me demande une composition nationale de mes produits que je ne peux pas faire moi-même. Non, et en même temps, comme les États-Unis et le Canada et les autres pays du Nord, eux aussi ont multiplié leur traité de libre-échange, cette préférence qu'on peut avoir en signant un traité de libre-échange avec eux tend à se diluer. Donc, disons, les bénéfices tendent à se diluer alors que les coûts, eux, ils sont bien là. Dans le cas du Mexique, il y a certaines activités quand même qui ont été réservées à l'État. D'ailleurs, c'est dans la constitution mexicaine, dont le pétrole. Bien, qu'est-ce qui s'est passé après? D'abord, une très forte progression du commerce, exportation et importation. Importation en violet, exportation en bleu ciel. Vous pouvez voir quand même que le solde tend à être assez systématiquement négatif. Donc, déficit du solde commercial. De ce point de vue, on peut dire, bon, un des éléments pour lesquels on a signé le traité a été un succès. Il y a plus de commerce, certes. Si on était dans un concours de qui augmente le plus rapidement les exportations ou les importations, sans doute que le Mexique pourrait être le champion du monde. En tout cas, il serait dans le podium. Mais est-ce que c'est ça, le but de la manœuvre. Ou est-ce que c'est faire en sorte que, sur cette base-là, on se développe? Je laisse la question pour y revenir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on exporte? Alors là, j'ai essayé d'expliquer cette espèce de peinture expressionniste. Vous voyez, au début des années 80, il y a une très grande partie, c'était du pétrole. Bon, c'est après le deuxième choc pétrolier et après qu'on ait découvert de très grandes ressources pétrolières au Mexique. Mais à partir des années 90, la partie là en rouge, c'est la maquila, c'est-à-dire les usines de montage de produits importés qui sont réexportés. Non, c'est essentiellement, c'est donc une entreprise, ce sont des manufactures intensives en importation qui, à laquelle s'est ajouté un autre maquila plus, disons, ça s'appelle le Pitex, c'est aussi un programme d'importation temporaire pour les exportations. Et entre les deux, ça fait trois quarts des exportations du Mexique. Non? Donc ce sont des manufactures que, si on les classifiait par leur intensité technologique, semblent être extrêmement intéressantes, parce que ce sont de l'électronique, des télévisions, etc. Mais ce n'est pas une technologie maîtrisée au Mexique. Au Mexique, on ne fait qu'assembler. Donc, il n'y a pas de diffusion technique, de connaissances, de valeur ajoutée ou de travail de bonne qualité. Et ceci se voit, là vous avez tout ça, c'est en pourcentage du PIB. Alors ce sont les exportations et les importations manufacturières, et vous voyez qu'elles ont quand même augmenté les exportations autour de 5% du PIB à plus de 20% du PIB. C'est énorme, non? Et pourtant, les manufactures elles-mêmes, la valeur ajoutée du secteur manufacturier a diminué. Alors c'est très paradoxal apparemment, mais dans la pratique ça s'explique parce que, en fait, ces exportations-là contiennent une quantité d'importations extrêmement importante. Et donc, il n'y a pas eu un processus de développement industriel par ce genre d'industrie. Alors, on pourrait dire, bon, ça c'est une première étape. Dans la deuxième étape, le Mexique lui-même va produire les inputs, non, les intrants qui vont après être assemblés et exportés. Mais dans la pratique, cette deuxième étape n'est jamais arrivée. Elle n'est jamais arrivée parce qu'il n'y a pas eu de politique économique qui rende cela possible. Donc, on a eu plus de commerce, mais pas plus de développement poussé par le commerce. Non? Et il faut bien penser que dans les années 90, c'était ça l'idée. Non? Export-led growth, une croissance libérée par les exportations. Il y a eu plus d'exportations sans une croissance conséquente. Pour les investissements, aussi on disait, bon, en ouvrant l'économie, on va recevoir plus d'investissements étrangers directs, et ça va augmenter l'accumulation de capital dans mon pays. Dans la pratique, il y a eu plus d'ouverture, il y a plus d'investissements étrangers directs, et il n'y a pas eu un accroissement significatif du taux d'accumulation. Non? Et pourquoi? Bon, déjà parce qu'il y a un très grand équivoque. Quand on dit investissement étranger direct, deux fois sur trois, ce n'est pas de l'investissement. Ce sont des privatisations ou des achats de compagnies qui existaient déjà. Et c'est compté comme, non, c'est enregistré dans la balance des paiements comme investissement étranger direct. Mais en fait, souvent, c'est un changement de main. Ce n'est pas une création de richesse ou de potentiel de production. Et le Mexique, Dieu sait s'il a vendu des choses à l'étranger. Il n'a pratiquement plus de système bancaire national. Disons, toutes les banques commerciales mexicaines sont étrangères maintenant, ce qui n'était pas le cas au début du processus. La ligne noire, là, c'est la signature du traité, la ligne verticale. Bien, alors vous voyez que le stock d'investissement étranger direct a beaucoup augmenté au Mexique. Autour de un peu plus de 5% à plus de 30% du PIB. Non? Mais l'investissement comme pourcentage du PIB en termes donc réels, lui, il est resté autour de 20%. Non? Il y a comme un découplage. Non? Ou de nouveau, si l'objectif était attirer plus d'investissements étrangers directs comme un but en soi-même, alors là, chapeau. Mais si c'était d'augmenter l'investissement réel, alors là, c'est limité comme réussite. Est-ce que l'ALENA a produit une convergence? Non, on pense souvent que lorsque on intègre des pays un peu de façon spontanée, les niveaux de vie vont s'équilibrer et qu'il y aura un rattrapage du plus pauvre vers le plus riche. Alors c'est très limité. De nouveau là, en noir, c'est la date de l'ALENA. Alors il y a eu plutôt un éloignement du PIB par habitant mesuré en parité de pouvoir d'achat dans les premières années, un rattrapage après. Mais ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'il y ait un processus très fort de rattrapage, surtout vu en perspective historique que je vais montrer tout de suite. Et quant au salaire, ben, il n'y a pas eu du tout de convergence. Non? Et quand on sait que les salaires aux États-Unis eux-mêmes ont stagné les dernières décennies, ceci veut dire que les salaires mexicains aussi. Sans parler des salaires minimums qui, eux, ont diminué. Là, ce sont des salaires moyens dans les manufactures. Sur le long terme, voilà, le Mexique est en bleu. Alors là, c'est le PIB par habitant mesuré en parité de pouvoir d'achat depuis les années 50. Alors on voit quand même que avant l'ouverture, il y avait un rattrapage. Non, avant les réformes économiques, avant le néolibéralisme qui a commencé avant l'ALENA. Non, là il faut aussi dire que lorsque on dit bon, est-ce que quelles sont les conséquences de l'ALENA? Non, ce n'est pas les conséquences de l'ALENA seul. C'est l'ALENA avec toutes les politiques économiques qui ont été et sociales qui ont été suivies ensemble. Non, dont l'ALENA était évidemment peut-être le plus symbolique. Il y a eu, après, lors de la crise des années 80, une rétraction, disons, une perte du terrain gagné par le Mexique. Et on voit que l'ALENA n'a pas changé grand-chose à cette situation. J'ai laissé comme comparaison d'autres pays, disons, les deux autres économies les plus importantes de l'Amérique latine. L'Argentine, qui, lors du néolibéralisme qui a commencé en 76, a régressé jusqu'à 2003, quand il y a eu un changement politique, et là, il y a un rattrapage très vif. Et le Brésil, qui aussi a été, qui a d'abord avancé, puis reculé avec la crise des années 80 et le néolibéralisme, et qui, depuis, aussi entre sur un sentier de rattrapage. Non, mais ceci, c'est pour vous montrer un peu dans l'ensemble, non, enfin, comparer le Mexique à quelque chose, non? Non seulement à son expérience passée, mais aussi à d'autres pays de la région. Justement, dans cette comparaison, on voit que le Mexique, avant les réformes libérales, croissait très vite, et l'Amérique latine aussi. Depuis la crise de la dette, le Mexique a pratiquement stagné. Dans les années 80, il faisait moins bien que le reste de l'Amérique latine. Il y a eu une amélioration après, où il a fait un peu mieux que l'Amérique latine, un peu avant et un peu après l'ALENA. Puis après, il est plutôt resté en deçà dans le dynamisme latino-américain. Mais on ne peut pas dire que l'ALENA elle-même est signifié ni un grand plus ni un grand moins pour la croissance mexicaine comparée au reste de l'Amérique latine. Et là, c'est la distribution des revenus, aussi que je vais rapidement essayer de vous expliquer. Ce graphique est un peu compliqué. Déjà, deux choses. Il y a deux définitions ou deux façons de mesurer la distribution des revenus. C'est voir capital contre travail. Et ça, ce sont j'ai deux estimations, en bleu et en jaune. En bleu, c'est la CEPAL. En jaune, c'est l'OCDE qui est la source. Là, j'ai perdu. Voilà. Alors, on voit une diminution dans les deux cas. Seulement, dans le cas de la CEPAL, c'est une diminution depuis 40% du PIB pour le travail à 30% du PIB, en gros, non, avec la signature de l'ALENA qui ne change pas trop la tendance, sauf que peut-être il y a une chute, parce que juste après la signature de l'ALENA, il y a eu une crise, la crise du tequila en 95. Alors que l'OCDE montre une chute de autour de 60 à 40% du PIB, non, comme la participation du travail. Pourquoi cette différence? C'est une question méthodologique. La CEPAL tient compte, enfin considère parmi les revenus du capital tous les auto-employés. Donc même un petit commerçant ou un agriculteur, un petit agriculteur qui n'est pas salarié parce qu'il travaille pour lui-même, la CEPAL va le considérer avec le capital, alors que l'OCDE fait la division de ses revenus entre une partie capital et une partie travail. Et donc c'est pour ça que la partie du travail dans les statistiques de l'OCDE sont beaucoup plus fortes que pour la CEPAL, d'accord? Mais la tendance, vous voyez bien qu'elle est la même. Non, vers le bas. Non, c'est que le travail a perdu en termes de distribution des revenus depuis les années 70, mais surtout depuis les années 80, et ça a continué après l'ALENA. Si on considère une autre mesure de l'inégalité, c'est pas capital-travail, mais c'est tous les ménages. Non, on les classe du plus riche au plus pauvre et on calcule avec le coefficient de Gini l'inégalité des revenus. Là, on voit que le Mexique, alors là c'est l'axe de droite, que le Mexique a eu des niveaux élevés d'inégalité, près de 0,50, de Gini c'est haut. Que l'ALENA au début n'a pas introduit grand changement et que dans les années 2000 quand même il y a une diminution des inégalités mesurées de cette façon-là. Pourquoi? Parce que le Mexique, comme le reste de l'Amérique latine d'ailleurs, a eu un plus grand rôle de l'État des transferts vers les familles les plus pauvres. Et cela a donc réduit, disons, les inégalités totales mesurées ménage par ménage. Ceci a un reflet dans la pauvreté. En noir, là, les points noirs sont c'est la proportion de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous voyez que ça, ce sont des chiffres de la CEPAL. Vous voyez que pour le Mexique, il y a eu une augmentation lors des années 90. On n'a pas des données plus anciennes. Et l'ALENA elle-même ne montre pas un changement de tendance. Il y a un changement de tendance plus tard qui peut être lié à ces transferts dont je parlais avant. Mais j'ai mis à côté du Mexique le reste de l'ensemble de l'Amérique latine, Mexique compris, en rouge. Et là, vous voyez que il y a la même tendance dans le reste des pays. Non, donc là encore, l'ALENA en soi-même ne montre pas une très grosse différence entre le Mexique et le reste de l'Amérique latine. Peut-être aussi une plus grande volatilité, une plus grande sensibilité à la conjoncture des États-Unis, et c'est pourquoi la pauvreté là a augmenté récemment au Mexique alors qu'elle a continué à descendre dans le reste de l'Amérique latine. Non, donc la crise aux États-Unis qui a frappé fortement le Mexique s'est reflétée sur une croissance récente de la pauvreté. Donc pour conclure, le Mexique avec l'ALENA, mais pas seulement avec l'ALENA, avec tous les autres traités de libre-échange qu'il a signés et avec les privatisations qu'il a suivies, sauf le pétrole, avec les dérégulations des marchés, avec politique de flexibilisation du travail, que maintenant il y a une loi qui est en train d'être discutée. Avec tout ça, oui, il a augmenté les exportations, oui, il a augmenté le flux de capitaux qui sont entrés au pays, mais cela n'a pas mené à une croissance soutenue qui soit mieux qu'avant. En fait, c'est moins fort qu'avant. Moitié. Non, le taux de croissance mexicain, d'après ces réformes libérales, est deux fois moins fort qu'avant. Et ça n'a pas non plus donné un avantage au Mexique par rapport au reste de l'Amérique latine. Ça n'a pas non plus montré une chute du Mexique très significative par rapport au reste de l'Amérique latine, même si dans les années 2000, il a cru moins que le reste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une bonne mesure, notre analyse, c'est que le coût de ne pas avoir une politique de développement à cause des instruments du développement qui ont été abandonnés pour signer ces traités de libre-échange ou par conviction des gouvernements eux-mêmes, non, pas nécessairement parce qu'ils étaient obligés, mais parce qu'ils croyaient que le libre-marché allait provoquer le développement tout seul. Bon, ça a été une mauvaise décision. Et que les pays ne se développent pas spontanément parce qu'ils commercent davantage ou parce qu'ils reçoivent plus de capitaux étrangers. Au contraire, parfois, ces capitaux étrangers mènent à des crises, comme en particulier la crise de la dette au Mexique en 82 ou la crise du tequila au Mexique en 95. Ce que nous on dit, c'est qu'il faut maintenir des instruments de développement. Ça ne sert à rien de signer un traité si c'est à ce coup-là de perdre des instruments pour le développement. Et en fait, l'amélioration qu'il y a eu en Amérique latine récemment est directement liée à un rôle de l'État plus important qui a diminué les inégalités et augmenter l'investissement public, et on a pu montrer donc qu'il est possible de croître avec moins d'inégalités, mais toujours avec un rôle des politiques économiques actives.